Ici Jean-Dominique Leduc. Bienvenue au balado d'entretien entre deux cases. Aujourd'hui, je reçois Géraldine Grotowski et François Simard, les auteurs de bande dessinée derrière les éditions Nez Cafeux, une structure éditoriale basée dans la vieille capitale qui publie le jeune et non moins excellent collectif La Flopée. Géraldine Grotowski, François Simard, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de passer au micro de mon balado. Donc, vous êtes respectivement autrice, auteur de bande dessinée et parallèlement à vos carrières, vous pilotez la structure éditoriale Nez Cafeux qui publie notamment le collectif La Flopée. Donc, vous êtes basé à Québec même. Et Québec, on peut dire que Québec est vraiment, dans le cas de Nez Cafeux et de La Flopée, Québec est vraiment au cœur de ce projet-là.
Oui, oh oui, vraiment. C'était vraiment quelque chose pour nous qui était important, la communauté. Puis c'était quelque chose aussi pour se démarquer en étant une jeune maison d'édition. Voilà.
Il fallait être audacieux en lançant une structure éditoriale, de d'abord publier un collectif. Vous n'êtes pas les premiers à l'avoir fait. J'ai l'âge d'avoir vu La Pastèque faire ça. Mécanique générale, faire de même. Mais en 2025, lancer un collectif, est-ce que c'est audacieux ou au contraire, c'est du domaine de douillet? Je serais vraiment curieux de vous entendre là-dessus.
Je vais commencer, Géraldine. Là. C'est sûr que lorsque j'ai eu l'idée de faire La Flopée avec Jonathan Poivre durant le festival de BD là, de 2023, si ma mémoire est bonne, 2022, ma mémoire, les dates font défaut, j'imaginais pas là, vraiment pas dans quoi qu'on s'embarquait. C'était vraiment une idée un peu. Une idée de personne qui n'avait jamais fait ça, puis qui se disait, ben moi, je suis capable de faire ça, je veux publier de la BD, on va sortir un collectif, puis ça va être assez simple à faire. Mais on s'est comme mis un petit peu le bras dans le tordeur, puis avec. Moi, je suis graphiste de formation. Il y avait peut-être une petite déformation professionnelle aussi de rendre un produit quand même. Un beau produit, un beau livre. Alors, on n'a pas compté nos heures, disons, dans les deux premières éditions. Puis là, on est en train de préparer la troisième. On aura sûrement l'occasion d'en parler.
Oui.
On compte pas nos heures non plus.
Si je peux renchérir là-dessus, c'est que, dans le fond, Nez Cafeux est devenu un organisme à but non lucratif en juillet 2025. Puis dans notre mission...
24.
Ouais, l'année dernière, 2024.
Ouais.
Puis dans notre mission, c'était vraiment de faire, tu sais, de démocratiser la bande dessinée, de la faire découvrir à un maximum de personnes, puis aussi de vraiment soutenir la relève, essayer de mobiliser les gens à faire de la bande dessinée et à en lire. Donc, tu sais, c'est sûr qu'un collectif, ça répond à ce besoin-là parce que c'est accessible. Moi, je pense que pour des gens, par exemple, pour faire découvrir la bande dessinée à des gens qui n'en lisent pas tant que ça, ben, on a une variété là, dans ça, fait que ça crée comme une curiosité. On peut connaître différents BDistes. Dans ce sens-là, c'était pas si audacieux. Ben, dans le fond, c'était audacieux, oui, mais calculé, dans le sens qu'on pense que c'est un moyen de faire connaître la bande dessinée, qui est un bon moyen. Puis aussi, ben, nous, c'est un livre qui est quand même accessible là, au niveau du prix. Donc, on veut vraiment faire découvrir des gens, découvrir des artistes qui sont vraiment, on a une belle panoplie d'artistes. Puis, il y en a pour, tu sais, je trouve, c'est impossible de ne pas y trouver son compte à quelque part. Peut-être que ce n'est pas l'unanimité. Peut-être qu'il y a des BD qui vont plaire plus à un qu'à l'autre. Mais. Au final, je pense que c'est on répond un peu à la ben, on répond à notre mission avec ce collectif-là.
C'est fou parce que, en fait, l'aspect périlleux d'un collectif, c'est C'est que nécessairement, comme lectrice-lecteur, comme on a un éventail devant nous, généralement, il y a des trucs qui vont nous toucher, qui vont nous parler plus que d'autres. Et le défi du collectif, c'est que la somme soit, en fait, soit aussi forte que chacun de ces éléments. J'en ai lu beaucoup, vous en avez lu beaucoup des collectifs. Et moi, je dois vous dire une chose. J'ai été impressionné par la flopée parce qu'une telle cohérence, c'est vraiment étonnant. Et la dernière fois, moi, que j'ai ressenti ça comme lecteur dans un collectif, c'était le collectif Trip aux éditions Trip, piloté par Marc Tessier, parce qu'il y avait vraiment dans ce collectif-là, on sentait vraiment un esprit de corps, il y avait un parti pris. Parce que souvent, le danger des collectifs, c'est on pige à gauche, à droite, on lance ça au mur, puis on attend de voir qu'est-ce qui colle. Et moi, je dois vous avouer que quand j'ai entendu parler de vous la première fois, je dois m'en confesser, j'ai fait bam, un autre collectif. Mais immédiatement, dès que j'ai ouvert le premier volume, j'ai fait, oh, OK, et le souci du graphiste François dont tu parlais tout de suite, on le sent. Et il y a une telle cohésion dans ce que vous faites que ça faisait longtemps que je n'avais pas traversé un collectif à la lecture. Et je me suis pris au jeu de poser le crayon et de mettre le lecteur professionnel de côté, puis juste d'être dans une position d'un lecteur lambda qui prend vraiment beaucoup de plaisir. Donc, moi, je tiens à vous féliciter.
Merci.
C'est de l'ordre de la magie noire, donc je ne sais pas c'est quoi votre recette, mais conservez-la.
Pour le tome 1, on va être honnête, il y a un petit peu de chance, car ça a été des perches que j'ai lancées à des gens que je ne connaissais pas, sauf sur les réseaux sociaux que je suivais, puis je parlais du projet. Puis, à part dire, on aimerait ça que la ville de Québec soit le théâtre de votre histoire. Il n'y avait pas grand consigne. Fait que j'ai reçu les bandes dessinées, puis j'ai fait, oh mon Dieu, comme on est chanceux d'avoir cette qualité-là d'histoire. Et là, pour le tome 2, là, on avait plus un appel à projet fait en bonne et due forme. Et là, on avait des critères de sélection et là, on pouvait avoir un regard plus éditorial. Là, et Géraldine était là lors du numéro 2 pour la sélection des histoires. Fait que ça l'a apporté aussi quelque chose là, à la parution.
Oui,
Une
mais
idée. Oh,
je veux
excuse-moi,
juste
Géraldine.
interrompre de dire que aussi, c'est sûr que le travail de François, là, tu sais, il est pour beaucoup parce que c'est graphiquement, c'est vraiment intéressant. Puis il y a beaucoup, beaucoup d'amour, là, je peux dire, dans la flopée. Mais tu sais, c'est ça aussi, c'est que ben, merci de nous dire parce que c'est ça le but aussi, c'est que comme tu disais, le tout est plus fort que la somme des parties, tu sais, c'est ça qu'on veut faire. Mais aussi, je pense que la réussite, c'est qu'on est un comité de sélection qui est très diversifié. On a des backgrounds différents, puis on a des goûts différents. Puis on se challenge beaucoup pour essayer de vraiment, tu sais, être certain, puis qu'il y ait une cohésion aussi entre ce qu'on choisit. C'est sûr que quand on va faire un appel, c'est pas, si on ne choisit pas quelqu'un, c'est pas nécessairement qu'on n'a pas à apprécier, mais c'est parce qu'il faut que ça colle, il faut que. Toutes ces BD-là fassent sens, là, une aux côtés de l'autre. C'est pour ça qu'on a mis beaucoup de travail à ce que ça fasse ça. Parce que nous-mêmes, on lit de la bande dessinée, puis on veut. On sait ce qu'on aime aussi, mais on a quand même une variété de goûts parmi nous. Mais il faut que ça reste quand même grand public. Là. On ne va pas non, nécessairement dans les BD. Même si, par exemple, moi, j'aime la BD un peu plus trash. Ben c'est pas la flopée est pas dans ce créneau-là.
Mais admettons qu'une histoire hein, dans une esthétique graphique un peu plus, et là j'utilise les guillemets trash, là, si ça se présente à vous et que ça entre totalement, ça épouse totalement les paramètres de ce que vous faites.
Moi, on verrait pas de problème, je crois, là, tant que ça reste quand même une histoire tout public. Après ça, le côté graphique a plus ou moins d'importance, je dirais, le style graphique a plus ou moins d'importance dans notre ligne éditoriale pour la flopée.
Et je le disais d'entrée de jeu, une des particularités de votre collectif et l'idée de mettre Québec au cœur de ça, c'est que, et tu l'as énoncé, François, c'est que chaque histoire a lieu, se déroule quelque part à Québec, dans une banlieue ou à Québec au cœur même, dans un de ces quartiers. Cette idée-là vient d'où? Qu'est-ce qui a motivé ce choix-là?
Ce choix-là a été motivé par plusieurs choses. La première, c'est à Québec, on a beaucoup de il y a un milieu il y a un milieu fort de la bande dessinée à Québec, mais c'est quand même des auteurs qui sont bien établis, puis au niveau qui sont bien établis. Et à Montréal, la scène un petit peu plus émergente, je dirais, est quand même très forte. Et là, c'était pour dire, ben nous aussi à Québec, on est capable d'avoir une scène de nouveaux talents. C'était pour un petit peu par compétition, mais bienveillante, que j'ai dit, bon, on a pensé tabler là-dessus. Puis le sujet de la ville de Québec est venu parce qu'avec Jonathan Boisvert, on se posait la question. C'est quoi la ligne directrice de nos numéros? Puis là, on se trouve-tu des thématiques, l'amour, la joie, tu sais, par numéro. Puis là, on se dit, ah, il me semble, on voulait aller ailleurs. Puis là, on s'est dit, ben, la ville de Québec reste quand même un sujet très large. Puis tu sais, on parle pas juste de l'histoire de la ville de Québec ou d'un monument. On voulait juste que ce soit le théâtre. Des histoires que même si un auteur nous arrivait, puis c'était un huis clos dans un appartement, puis qu'elle nommait pas que ça se passait à Limoilou, mais que l'auteur sait que cette histoire-là se déroule à Limoilou, OK, c'est good enough, c'est parfait. T'sais. On voulait pas avoir des histoires qui se déroulent un peu partout à travers le monde, on voulait qu'on sente quand même que ça se passe à Québec. Fait que c'est comme ça que cette idée-là est venue de tabler là, sur la ville de Québec pour la flopée.
C'est intéressant parce que pour moi, la scène de Québec, à chaque décennie, il y a toujours une scène forte. Tu sais, moi, je me souviens dans les années 90, j'étais un grand, grand fan du zine Tabasco, piloté par Éric Asselin, Philippe Gérard, Jeff Bergeron. Il se passait des belles affaires aussi dans les années 80, même dans les années 70, dans le printemps de la bande dessinée québécoise. Et il y a eu quand même au fil de ces décennies-là beaucoup d'initiatives. Tu sais, Bambou, Zeppelin, Tabasco que j'ai nommé, le Bob, Zidara 9. En même temps, je sens qu'il y a quand même une difficulté, et ça, c'est, je veux dire, c'est un fait historique. Les structures éditoriales naissent et perdurent pas à Québec. Tu sais, je pense à Berbère 13, il y a une dizaine d'années, où ils ont été très, 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 très actifs, ou même dans les années 90 avec les éditions Falardeau. Quelle est la difficulté à Québec d'animer et de faire vivre une structure éditoriale? Ou en tout cas, non, en fait, je vais vous poser la question, je vais reformuler ma question. Quels sont les défis auxquels vous faites face? Avec les éditions Nez Café. Parce que là, pour l'instant, vous avez publié un collectif, mais j'imagine que vous avez d'autres projets là, dans votre besace. Alors, quels sont les défis auxquels vous faites face, vous, comme jeune au BNL en édition?
Ouais. Moi, je peux dire que d'un point de vue personnel, le défi, c'est de comme doser un peu le côté éditrice et créatrice. Parce que, dans le fond, c'est ça, là, on est un peu victime de notre succès. Dans le fond, Nez Café, ça fonctionne très bien, là. Donc, là, on est en train de se questionner, est-ce qu'on va mettre un peu plus de temps, d'énergie là-dedans? Mais c'est ça, il y a ça aussi, c'est que quand on a les deux rôles, ben à un moment donné, il faut faire un choix, on ne peut pas tout faire. Le temps est compté. Donc ça peut être un défi là, sur le plan personnel parce que c'est beaucoup de travail. Puis en ce moment, ben, C'est beaucoup de travail de bénévole. Donc, un des grands défis, c'est d'avoir des subventions, d'aller chercher du financement pour que ça soit viable au long terme. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que ça grossit, puis à un moment donné, c'est plus
On
viable parce que
s'essouffle.
là, ça fait trop d'heures travaillées. Il y a ce défi-là qu'il va falloir bientôt. On est en train de voir comment qu'on peut progresser, mais sans s'étouffer là-dedans, parce que c'est sûr que c'est un gros défi, mais c'est un beau défi, en tout cas, moi. Pour ma part, on est vraiment emballés. Ça nous redonne beaucoup d'énergie de voir les créations là, de nos BDistes, là. Je sais pas, François, si tu peux...
Ben, je compléterai en disant que on fait pas les choses à moitié. Fait que c'est, comme Géraldine dit, c'est un peu de se doser aussi, parce que, tu sais, pour ma part, pour la part de Géraldine, je vais parler pour Géraldine, puis Jonathan Richard, qui est plus au niveau des réseaux sociaux, puis qui travaille beaucoup avec nous. On a la pédale dans le fond. Tu sais, on tripe, c'est le fun, on met beaucoup d'amour, mais. Ben, j'ai un travail à temps plein, j'ai une famille, je fais aussi de l'illustration le soir, mais aussi j'ai les éditions Nicafeu. Donc, c'est de trouver le bon dosage et de pas trop s'enflammer, sans faire de mauvais jeu de mots sur les projets, parce que, tu sais, avoir des idées, c'est le fun, puis monter des projets, c'est plaisant, puis Nicafeu est jeune, bah, tout est ouvert devant nous, là, t'sais, là, on a le champ libre, mais je dirais, Géraldine l'a dit, le financement, c'est quand même un point important, parce que sans argent, ben, c'est plus difficile de mettre des projets en place. Mais
Diriez-vous que...
on tire notre épingle du jeu, t'sais, on tire quand même notre épingle du jeu. Là.
Mais diriez-vous aussi que c'est dû à une certaine maturité de votre part? Parce que vous êtes arrivé quand même, là je ne veux pas tomber dans l'angisme, mais vous êtes arrivé quand même tardivement à la bande dessinée, les deux, là.
Oui.
Donc j'imagine aussi que cette maturité-là vous permet, parce que quand on a la vingtaine, on a l'insouciance, on a la pédale dans le fond, mais on n'a pas d'expérience forcément. Donc ça revole de...
Oui, c'est
C'est ça.
effectivement le bagage qu'on a. Moi, je travaille dans une boîte de. Je suis propriétaire d'une boîte de web. C'est sûr que toutes les notre façon de gérer au niveau de la gestion, de comment qu'on va gérer les projets, les communications et tout, ben, il y a du bagage qui vient beaucoup de mon expérience. Il y a Géraldine qui est dans les ressources humaines, c'est un bagage énorme pour le contact avec les artistes, le contact avec aussi le milieu de la communauté de la bande dessinée ou des bailleurs de fonds. Fait que c'est sûr que cette expérience-là vaut beaucoup là, dans le succès qu'on a présentement. Mais il y a beaucoup d'insouciance de jeunes de 20 ans quand même.
Ah oui,
Ouais.
hein? Quand je parlais tantôt d'une espèce de cohésion dans votre collectif, il y a aussi l'idée, et vous en avez parlé, de laisser la place à de nouveaux talents. Il y a aussi beaucoup d'autrices au sommaire de la flopée. Et cette idée de panorama fonctionne très bien parce qu'on passe de tonalités très différentes. Hein? Entre autres, toi, François, tu animes un feuilleton aux accents post-apocalyptiques, science-fictionnels, le solstice. Donc, j'imagine que là, à un moment donné, ça pourrait faire l'objet d'un album, ça, publié aux éditions Nekafeu. Est-ce que je me trompe?
Ça pourrait faire l'objet de. Par contre, le feuilleton est un peu sur pause pour le tome 3
Ah bon?
de la flopée, oui. Parce que justement, quand on parlait de jongler avec les horaires, les aléas de la vie et ne pas brûler la chandelle par les deux bouts, il y a une membre de notre CA chez Nicafeu m'a déjà parlé de ça, de faire attention. Puis ça a quand même résonné en moi quelque chose. Fait que je pense souvent à Pascal B. ce qu'elle m'a dit. Fait que pour le tome 3 de la flopée, même si j'aurais beaucoup envie de continuer à faire ce projet-là, ben j'ai dit, ben, la Terre n'arrêtera pas de tourner si je prends une petite pause pour pouvoir me consacrer justement plus à Nikafeu. Mais c'est sûr que ça serait dans les projets, là, ça serait quand même agréable là, de poursuivre là, cette aventure-là et de la conclure. Puisque j'ai fait l'erreur de mettre à suivre.
Oui, là, on attend ta suite, là.
Ben oui, c'est
C'est
ça,
ça.
là. Tu t'es un peu
Ouais.
brûlé, François.
Oui, je sais, je me suis peinturé dans le coin. Puis pour le
Ouais.
tome 2, je me suis dit, ah, je pourrais conclure ça. Puis là, ben non, j'ai quand même écrit à suivre à la fin du chapitre 2. Mais c'est ça, c'est un projet qui est en cours, qui n'est pas terminé, puis qui n'est pas arrêté non plus.
Géraldine, tu es également au sommaire des deux premiers numéros de la flopée. Dans ton cas précis, avec des brèves,
Oui.
qu'est-ce que ça te permet, Géraldine? Bon, parce qu'évidemment, tu as publié, entre autres, chez Moelle Graphique, Comme des rats. Tu parlais tantôt que tu aimais l'aspect un peu plus trash de la bande dessinée. Comme des rats, il y a résolument, au niveau graphique, au niveau esthétique, tu campes un peu plus de ce côté-là, là. Il y a quelque chose d'un peu plus abrasif. Dans la flopée, je sens que comme autrice, tu explores, ou en tout cas, tu vas ailleurs. Est-ce que pour toi, la flopée, justement, c'est un carré de sable?
Oui, c'était. Ben, en fait, c'est ça. Comme des rats, c'est un peu punk là, comme livre, puis c'est correct. Ça servait le propos. Mais avec la flopée, j'avais le goût de me faire plaisir. J'avais le goût que ça soit comme un feel good, un peu, là, comme on peut dire. Surtout la première histoire. J'avais le goût de jouer avec des thèmes. En fait, c'est quand que François m'a proposé de participer, tu sais, j'ai voulu parler pour le premier de mon quartier, Limoilou. Fait que je réfléchissais à ça, comment je pouvais faire honneur à mon quartier, ou je sais pas, mais c'était un peu comme, c'était hyper stimulant parce que justement, le fait de faire une courte histoire, c'est moins engageant que faire une bande dessinée, un album d'une centaine de pages. On peut se laisser aller à créer un concept puis le faire. Puis c'est gratifiant là, de terminer une histoire. Donc ça, moi, ça m'avait vraiment stimulé. Puis le deuxième, j'étais allée un peu autour de un peu un hommage au magazine Cro qui a marqué ma jeunesse. Donc c'est un peu ça. Tu sais, j'ai voulu faire un peu des hommages dans la flopée, en fait, aux gens ou aux choses qui m'avaient touchée. Mais moi, je suis beaucoup dans l'exploration, donc ça répondait parfaitement à ça, la flopée pour moi. Mais moi aussi, j'ai fait un petit pas de recul pour le numéro 3, là, donc je ne serai pas parmi les autrices là, du numéro 3. Il va y avoir vraiment beaucoup de
De
nouveautés
nouveaux
là,
visages.
de
Ah
nouveaux
oui.
visages hein, dans le troisième numéro.
Bon, ben parlons-en, vu que la porte est ouverte, là, la porte de garage est tout grande ouverte. Alors parlons-en du numéro 3 de la flopée. Les deux premiers numéros ont été sociofinancés via la plateforme La Ruche.
Seulement
Seulement le
le
deuxième.
deuxième, oui.
Ah bon?
Deuxième numéro. Oui,
Ah
le
bon?
premier, ça a été
De nos
socio-financé par
poches.
François
Ah
et
oui,
Jonathan
OK.
Boisvert.
Oui, c'est. Oui, bon. Alors, ben, oui, ben, donc, est-ce que le troisième, vous allez réitérer l'expérience du sociofinancement?
C'est pas prévu qu'on fasse un sociofinancement, mais il va probablement y avoir une prévente
OK.
pour le numéro 3, parce que c'est quand même beaucoup, beaucoup de travail, là, le sociofinancement. On avait plus envie de faire une prévente, surtout, c'est ça, c'est toute l'après, la livraison et tout, là. Ça aussi,
Oui, c'est
ça avait
beaucoup de
été.
gestion, hein.
Oui,
Ouais.
c'était
Et le,
énormément de
oui.
gestion, mais ça, on est content d'avoir vécu l'expérience.
Je pense que c'est un
C'est
passage obligé, d'un pour se faire connaître aussi, pour faire un peu plus de bruit, pour aussi les bailleurs de fonds montrer notre sérieux, notre
Ouais.
engagement. Mais la campagne a duré un petit peu plus d'un mois, mais elle s'est préparée beaucoup un mois avant, puis elle s'est continuée un mois après, fait que c'était quand même très énergivore pour des résultats qui étaient bien, mais c'est sûr, c'était si on mesure l'effort versus retour, C'est peut-être pas aussi pour nous, en tout cas, peut-être pas aussi aussi je cherche mes mots, mais c'est peut-être pas aussi insérer le mot que vous voulez ici.
OK. Mais oui, parce que c'est un travail à temps plein, gérer une campagne de socio-financement. Les gens ne se rendent pas compte. Et en même temps, j'imagine que ça vous a permis, comme entrepreneur, éditeur, de faire vos classes. Parce que là, on apprend vraiment. Si on peut avoir une idée floue de ce que c'est un travail d'éditeur, là, quand on fait une campagne de socio-financement, je pense qu'on est confronté à cette dure réalité-là et à la nécessité aussi de ce travail-là. S'il n'y a pas d'éditeur, s'il n'y a pas de travail sérieux derrière ça, ben, il ne se passe rien, là. Y a pas, les livres ne se rendent pas dans les mains des lectrices et des lecteurs. D'ailleurs, comme le deuxième a été socio-financé, le premier a été financé, le deuxième a été socio-financé, est-ce que c'est sur l'écran radar pour la flopée et les éditions Nekafeu, d'avoir un partenariat avec un distributeur pour être vraiment distribué à grande échelle partout dans les librairies au Québec. Est-ce que ça, c'est dans vos plans?
Oui, c'est dans nos plans, ça s'en vient
Ah, petit
prochainement
sourire en
sur
coin.
vos écrans. Oui,
OK.
c'est un passage obligé, je pense, pour progresser là, dans le milieu de l'édition. Donc, puis dans le fond, c'est pas juste obligé, dans le fond, c'est quelque chose qui est nécessaire, puis qui est agréable aussi là, d'avoir un partenariat avec un distributeur. Donc oui, on va bientôt annoncer le
OK.
partenariat. Et puis ça va permettre justement de... Parce que dans le fond, la distribution se faisait principalement par moi.
Ben
Et
oui.
c'est ça aussi, c'est un travail à temps plein. C'est pas pour rien que ça existe, les diffuseurs-distributeurs.
Ben.
C'est quand même beaucoup de suivi et de gestion. Donc on est prêt à passer... À la prochaine étape, là, ça s'en vient dans les mois, au mois prochain.
Pour lancer juste un petit peu de fleurs à Géraldine, on est quand même distribué en Abitibi-Témiscamingue, Abitibi-Témiscamingue, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Charlevoix, Chaudière-Appalaches, la ville de Québec, bien entendu, dans les Laurentides et à Montréal. Donc, c'est quand même 17 lieux de vente gérés par Géraldine
Wow!
et sa Nekafeu mobile. Donc,
Oui, la NAF mobile, comme on l'appelle.
ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour la troisième livraison, outre le fait que vous n'en serez pas comme autrice auteur de bande dessinée? En quoi sommes-nous en droit de nous attendre pour la troisième livraison de votre collectif?
Je dirais, la ligne éditoriale de Nekafeu se peaufine avec les numéros. Donc, là, on a vraiment mis l'accent justement sur des nouveaux visages dans le milieu de la bande dessinée à Québec. Fait qu'on va avoir 11 BD, mais dans ces 11 BD-là, on va avoir quand même 11 nouveaux
14
visages.
B
14, pardon. Ouais,
14 14
14 BD
BD.
et 11 nouveaux autrices et auteurs qui vont faire leur début en bande dessinée. Donc, c'est vraiment des personnes de tout horizon, puis c'est vraiment axé sur la relève, là, justement.
Encore
Et
beaucoup de visages féminins, mais c'est sûr que nous, on avait un objectif de diversité, mais il y a beaucoup de talent au féminin en ce moment, là. Je veux dire, ça s'est démarqué, puis c'était même pas... on avait vraiment beaucoup de femmes qui ont appliqué là, aussi là, pour l'appel. Donc, c'est encore très majoritairement des artistes féminines. Puis il y a aussi, si je peux dire un petit peu qu'est-ce qui a changé, c'est que nous, comme éditeurs, on est de plus en plus accompagnateurs durant le processus de création. Donc, vu qu'on a beaucoup de nouveaux, on offre à ces nouvelles personnes dans le milieu de la BD d'être accompagnées dès le départ et non pas d'avoir le résultat final, les planches finales. Donc, on peut les accompagner puis les conseiller durant tout le processus de création. Et ça, c'est ce qu'on a un peu établi de nouveau là, pour ce numéro-là.
On remarque aussi dans les deux premiers numéros, premièrement, du tome 1 au tome 2, vous avez presque doublé le nombre de pages.
Oui.
Donc ça, c'est un signe de santé qui est très, très clair, là, qui est très palpable. On remarque qu'il y a zéro rédactionnel dans votre revue, donc il n'y a que des planches de bande dessinée. Par le passé, bon, même encore aujourd'hui, planche pour ne pas le nommer, il y a du rédactionnel dedans. Je me souviens à l'époque de Zeppelin et de Bambou, il y avait une part rédactionnelle, Michel Giguère, entre autres, qui écrivait. Ce choix-là s'est imposé de lui-même. Est-ce que c'était
Oui.
pour avoir une meilleure fluidité au niveau de la bande dessinée?
On a déjà eu des discussions, on se dit, on fait-tu des entrevues ou puis la réponse est rapidement venue, non, c'est une BD. C'est vraiment une œuvre, un objet consacré à la bande dessinée. Même si, oui, pour avoir des entrevues, bien entendu, qui parlent de BD, mais on voulait avoir que de la BD en ouvrant la page. La première page, c'est oui, il y a le petit mot de l'éditeur, mais on voulait rapidement tomber dans ce qu'on aime, ce qu'on fait de la BD. Puis on
Et
voulait
donc,
aussi se différencier justement de la
oui.
revue Planche, puis pas, tu sais, pas être un compétiteur direct. T'sais, Planche fait bien son travail, il a sa ligne éditoriale propre à eux. Donc, on voulait aussi trouver une façon d'être différent également.
Mais je trouve que ça contribue à la fluidité, c'est-à-dire que quand on ouvre la floppée, ben, comme je l'ai dit, on embarque, on lit, on le traverse. On ne sort pas de notre hypnose de lecture. Et Dieu sait que dans la nature même de mon travail, j'aime beaucoup le rédactionnel. Mais aussi comme lecteur, j'ai pas toujours envie, puis j'ai surtout pas envie qu'on me le pousse dans la gorge. Alors je trouve que c'est un très bon choix que vous avez fait. À partir du moment qu'on le sent pas, ben on le fait pas, puis c'est.
Exactement. Puis, tu sais, il y a des petits détails comme ça. On voulait que chaque histoire ait sa propre place dans la BD. Donc, entrecouper ça aussi d'articles ou d'autres choses, on trouvait que ça pouvait nuire justement à cette fluidité-là et à la place que l'histoire prend. Et aussi, on a fait un choix de chaque histoire commence sur une page de droite, se termine sur une page de gauche, et la page de droite qui suit la dernière page, ben, elle est blanche pour vraiment faire une coupure pour le lecteur, bien indiquer que l'histoire est terminée. Pour nous, c'était important de vraiment donner le plus de place possible à chaque bande dessinée dans nos parutions.
Et donc, pour le troisième volume de la flopée, dans les semaines ou dans les mois qui vont suivre, on va finalement finir par en entendre parler, là.
Oui,
Oui,
ben comme
ben,
chaque
vas-y.
année, nous, le lancement de la floppy, se déroule toujours une semaine avant le début du Festival Québec BD, du Salon du Livre
Ouais.
international du livre de Québec. Donc, mais dans les, disons peut-être au début de l'année 2026, on va commencer à en parler de plus en plus là, pour faire connaître les BDistes du numéro 3. Donc, mais c'est ça, ça sera probablement pas avant janvier 2026 qu'on va vous dévoiler ça. Peut-être des petits coucous, là, mais pas plus que ça, là, qui est prévu, parce que le lancement, c'est quand même en avril.
D'ici là, vous allez participer à des événements. D'ailleurs, on vous voit. Vous étiez au Festival de bande dessinée de Prévost l'année dernière, je crois. Géraldine, tu y étais comme
Moi,
autrice
j'étais
ou...
seulement comme
OK.
autrice, mais on n'est pas exclu qu'on puisse essayer de les contacter pour une autre fois. C'est un festival qui est vraiment génial. Non, on était plutôt. Ben, dans le fond, notre premier festival qu'on a fait, c'était l'édition Fleuve de l'Exposine.
Ah oui, à Saint-Simon de
Oui,
Rimouski, pas très loin de chez moi.
oui,
Oui.
un salon ou en tout cas c'est un événement vraiment extraordinaire
Ah oui, c'est
là. C'est
formidable.
beau, les gens sont tellement agréables. Donc ça a été notre premier événement.
Wow.
Ensuite de ça, on en a eu plusieurs autres là.
François, je te laisse la parole, excuse-moi.
On a eu le Festival de BD de Québec, bien entendu. On a eu le Festival de BD de Montréal sous la pluie cet été.
Ah
Ça
oui.
a été une super expérience. Quelques moments difficiles à cause de la température, mais ben, Montréal, ça reste Montréal. C'est dynamique, ça bouge, il y a du monde. Fait que dès qu'il y avait un rayon de soleil qui se pointait, la rue Saint-Denis se remplissait de monde. Puis c'était vraiment le fun de sortir aussi de chez nous, puis de rencontrer un autre public. Puis on a vraiment eu une belle réception. Puis il y a également, on a fait le mini-festival de BD de Québec sur la rue Saint-Jean l'année dernière, puis qui revient cette année, justement, samedi le 13 septembre, sur la rue Saint-Jean. Donc là aussi, ben, c'est rencontrer un autre public, des touristes, des gens qui passent, tu sais, des gens qui ne sont pas là nécessairement pour la bande dessinée, mais qu'au passage, voient notre kiosque, on échange, puis tu sais, c'est toujours des belles rencontres, les événements. J'étais pas très pro-événement au début, là, quand j'avais
Ah bon?
commencé. Bon, j'avais dit à Jonathan, oh, moi, les kiosques, je veux pas faire ça, puis j'aime pas ça, je veux pas passer de fin de semaine, puis ben, il suffit d'en faire un pour avoir toute cette énergie-là. Voir les auteurs aussi, tu sais, qui vivent, vu que c'est souvent des premières expériences. Fait en faisant notre lancement juste avant le Festival de bande dessinée de Québec, le Festival Québec BD, ben les jeunes ou les nouveaux, ils rentrent par la grande porte dans l'univers de la bande dessinée de Québec et au Québec avec le festival. Puis là, ils dédicacent, ils vont à la soirée BD Escusa, tu sais, ils vivent le trip là, à 100%, puis voir justement leur visage, voir les familles qui viennent les voir, qui sont fières, tu sais, des discussions qu'on a eues, Géraldine et moi, après, tu sais, la fierté aussi qu'on avait de voir ces gens-là, en tout cas, c'était, je sais plus pourquoi que je dis ça, mais c'était beau.
Mais cette idée de, mais je trouve ça touchant, cette idée de transmission, le fait d'accompagner vos autrices, vos auteurs, alors que vous-même, vous êtes aussi relativement jeune dans
On sort de
ce...
nulle part. Je vais parler pour nous, on sort de nulle part un peu, là. Tu sais, fait que oui. Tu sais, moi, j'ai toujours de la difficulté à dire que je suis auteur de BD, là. Tu sais, je fais de la BD, oui, mais c'est ça, je suis relativement jeune, effectivement, dans le domaine. J'en ai consommé beaucoup. J'ai beaucoup de. C'est ça, j'ai une expérience en édition avec mon travail et tout. Mais c'est ça, c'est de la naïveté, je crois, puis de.
Mais je dois dire aussi, on fait ça en toute humilité. Dans le fond, qu'on n'a pas la prétention d'avoir la science infuse en matière de bande dessinée. Mais même si on est quand même assez nous-mêmes frais là, dans ce milieu-là, ou jeunes, mais on a quand même des opinions puis des conseils à donner, ne serait-ce que notre propre expérience, qu'est-ce qu'on a pu constater en faisant de la bande dessinée, mais je pense aussi une opinion extérieure, c'est toujours bon à recevoir. Puis dans le milieu de la BD, peu importe ton expérience, c'est bon d'avoir des échanges. Puis Nikafu, c'est un peu ça aussi, c'est que c'est pas juste, on fait pas juste publier de la bande dessinée, on est comme une communauté d'artistes qui se rencontrent, qui échangent. Fait que ça renforce aussi le sentiment d'appartenance entre nous. Fait que ça aussi, ça l'aide dans la création, parce que des fois, même si on a de l'expérience, on peut être bloqué dans un où on veut avoir un œil extérieur, juste échanger autour de la BD. Mais tout ça, c'est très fertile, je pense. Même si nous, on n'est pas peut-être pas les meilleurs mentors qui soient, mais je pense qu'on a quand même. On peut quand même aider avec le peu qu'on connaît. Je pense qu'on est quand même utile là, à ce niveau-là.
Est-ce que, parce que la difficulté avec un succès et en entreprise, le défi, c'est de gérer sa croissance.
Oui.
Et j'ai déjà l'impression qu'après seulement deux livraisons de votre collectif, vous êtes déjà rendu à ce stade-là. Donc, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite? n'est qu'à feu. Outre la
Financement?
santé, le plaisir, l'inspiration de fertiles rencontres, qu'est-ce qu'on vous souhaite?
Une bonne question, quand même. Je dirais que tous les projets qu'on a mis dans notre rapport annuel, dans les projets à venir jusqu'en 2028, se réalisent. Ça, qu'on trouve le financement pour, qu'on trouve les partenaires aussi. T'sais, le succès de Nekafeu, il y a beaucoup de partenaires. T'sais, Québec BD, sans Québec BD, Nekafeu, le feu, il est moins fort un peu. Sans la caisse, je dis la caisse des dépôts, mais c'est pas du tout
La
ça, là.
Caisse
Sans...
d'économie
Ouais.
solidaire,
T'sais,
la SDC de la Troisième Avenue, on a eu des librairies partout, première issue, on a beaucoup de collaborateurs comme les ateliers Les Autres Jours, Croque en Bouche qui nous a aidés lors de notre AGA, mais c'est sûr qu'on a l'appui du milieu, fait que ça, on souhaite que ça continue. Mais je pense que je suis d'accord avec François de dire si nos projets, ben nous, justement, on a un projet qui va sortir d'ici la fin de l'année, un nouveau projet destiné au public jeunesse. Ben c'est ça, on continue à lancer des nouvelles idées, mais on souhaite qu'on soit accueillis aussi par les lecteurs, les lectrices. C'est ça aussi, là, on souhaite qu'on continue d'être lus. C'est sûr que c'est ça le but.
Ben en tout cas, moi, je vous souhaite bon vent pour la suite parce que c'est très inspirant de vous lire. On le sait que la scène de la bande dessinée au Québec, elle est très dynamique, elle est très vibrante et il y a énormément de talent. Donc, je vous souhaite beaucoup de bonheur pour la suite des choses et nous, lectrices, lecteurs, je nous souhaite de vous lire encore très, très longtemps. Chapeau bas pour tout le travail que vous faites. Et
Merci, merci beaucoup.
ça paraît. Il y a tout de suite quelque chose. Dès qu'on entre en contact avec la flopée, on le sait qu'il se passe quelque chose. Donc, j'ai eu tort, espèce de vieux schnock, un peu désabusé de faire bam. Et c'est la preuve. Non, mais c'est une leçon d'humilité. Puis je tiens à vous le dire. Merci beaucoup parce que. Parce qu'il y a encore tellement de choses à découvrir et que c'est correct d'emprunter des chemins qui ont déjà été visités. La preuve, c'est qu'avec votre collectif, vous le faites à votre manière et déjà en deux numéros, vous imposez vraiment votre vision. On le sait qu'on a maintenant entre les mains un livre avec l'étampe de Nekfeu. Donc, vraiment, bravo.
Merci. Puis, si je peux juste rajouter une petite chose, c'est oui, on a une parution par année, mais tout au long de l'année, passage obligé, c'est un passage obligé. Les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, on a Jonathan Richard qui fait partie, comme je disais tout à l'heure, de la gestion là, même de Nekfeu, puis c'est lui qui s'occupe beaucoup de notre image sur les réseaux sociaux. Fait que, puis on est très actif parce qu'on veut justement pas simplement être une publication ou deux durant l'année. On veut faire vivre la bande dessinée, notre mission à longueur d'année. Puis veut pas, ben ça passe beaucoup par les réseaux sociaux. Fait que, TikTok, Instagram, Facebook, Blue Sky. Jonathan, il essaye plein de choses. Il teste beaucoup. Justement encore là pour se faire connaître et faire connaître la petite. Faire connaître Nekfeu, oui, mais faire connaître la bande dessinée, faire découvrir ce beau médium-là. Suivez-nous. Laissez-nous un
Oui.
commentaire, un petit pouce bleu.
D'ailleurs, dans le descriptif de l'épisode, les gens pourront vous rejoindre directement en cliquant sur le lien.
Merci.
Ben, merci beaucoup.
Ben, merci à vous deux, François, Géraldine. Puis au plaisir de vous relire aussi,
Oui.
hein? Vous avez fait le choix de vous retirer pour mieux revenir en force
On
ultérieurement.
l'espère, on l'espère.
Dans la petite parution jeunesse, qu'il
Ah!
va y avoir, peut-être que vous pourrez lire de quoi de Géraldine et moi en duo. Alors,
Ah bon? D'accord. Alors gardons l'œil ouvert
on dit
d'ici
ça comme ça?
Noël.
Oui.
Ben, en tout cas, bravo encore à vous deux. Et merci de m'avoir accordé de ce temps. Je vous laisse à
Merci
vos
à toi.
tâches administratives et créatives respectives. Je voudrais surtout pas trop vous freiner.
Bonne
C'est
journée.
très apprécié,
Merci.
Merci.
Pour suivre les éditions Nick à feu, rendez-vous au bento.me/Nick à feu. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour suivre mes différentes activités de médiation culturelle en bande dessinée, rendez-vous au jeandominiqueleduc.ca. À bientôt.